Une merveille, peut-être. Merci, bonjour. Ça me fait plaisir d'être là dans cette belle journée avec vous, fleurie, illuminée, réjouie. Merci pour la louange. Chers frères et sœurs, c'est vraiment toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, ça fait longtemps qu'on m'a demandé de prêcher ce 2 décembre. Et en feuilletant mon calendrier, pour moi, le 2 décembre, c'était le premier dimanche de l'Avent. Donc je me suis dit, je vais me documenter sur Noël, sur l'Avent, et puis c'est un thème que j'aime bien. Et puis en feuilletant les mementos, puisque nous avons le privilège d'avoir des mementos, je découvre qu'on m'a imposé un autre thème. Donc il a fallu que je m'accroche et que je me plonge dans cet autre thème qui s'intitule... Ah oui, il est là. D'accord, c'est bien. Le jeûne aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Et à vrai dire, parce que j'aime pas lâcher les projets qui me tiennent à cœur, je me suis dit, mais il doit y avoir quand même un rapport entre l'Avent et le jour du jeûne. Et alors, en effet, j'ai trouvé beaucoup de rapports entre l'Avent et le jour du jeûne, et je les partagerai avec vous. Tout d'abord, méditer sur le jeûne lui-même. Alors, et un, deux, ah oui, voilà le texte biblique qui nous a été donné pour aujourd'hui. C'est une parole de Jésus. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent à leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Lave-toi le visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens. Mais ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc il s'agit d'une parole de Jésus que Jésus a prononcée dans le sermon sur la montagne. Et c'est vrai que nous sommes pendant tout ce semestre dans le cycle du sermon sur la montagne. Alors les différents sens du jeûne. La pratique du jeûne dans l'Ancien Testament ou dans les autres religions, rapidement, le jeûne est une tradition bien intégrée dans l'ensemble des religions de notre planète. L'islam célèbre le ramadan, le mois du ramadan. Dans le judaïsme, vous avez beaucoup de prescriptions en rapport avec le jeûne, en rapport avec la fête des Pourim, la fête d'Esther, en rapport avec la fête de la Pâque, la Pessah. Le souvenir aussi de la destruction de Jérusalem, voilà un certain nombre de situations dans lesquelles les Juifs sont invités à jeûner. Et puis dans le bouddhisme aussi, le jeûne est compris comme une purification du corps et de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de commandement explicite en rapport avec le jeûne. Il y a un certain nombre d'évocations qui nous disent que le jeûne a sa place dans la spiritualité du croyant devant Dieu, en particulier dans le Lévitique où il est parlé des holocaustes qu'Aaron devait célébrer et présenter devant le Seigneur. En Lévitique 16, 31, il est dit ceci: « Vous vous priverez et vous humilierez vos âmes devant le Seigneur, vos âmes ou vos corps ». Devant le Seigneur. Donc c'est à partir de cette injonction, vous vous priverez, que le judaïsme a compris que le jeûne avait sa place dans sa spiritualité. Voilà pour ce survol. Mais j'aimerais avec vous évoquer un certain nombre de sens que l'on peut trouver au jeûne. Le premier sens du jeûne, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et je vous assure, être dans la présence de Dieu, il faudrait du temps pour développer cette expression qui a une profondeur ineffable. Alors, la personne la plus qui évoque d'une manière la plus forte cette notion d'être dans la présence de Dieu, c'est Moïse. Et il est dit en Exode 34, 28, Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Le « là » évoque bien sûr le sommet de l'Horeb. Moïse resta là, avec le Seigneur. Il ne mangea rien, il ne but rien, et il écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance les 10 paroles du Seigneur. Moïse a vécu là l'expérience profonde de la rencontre avec Dieu. Mais plus qu'une simple rencontre, qu'un simple rendez-vous, il s'agissait vraiment d'un temps d'intimité, d'un temps d'union, faire un avec Dieu. Et là, je ne crois pas qu'on puisse réellement mesurer la profondeur de ces paroles, parce que vous savez bien que Dieu se définit comme l'au-delà de tout, l'au-delà de tout ce que nous pouvons penser de lui, l'incommensurable, l'ineffable, celui dont on ne peut rien dire, l'indicible. Dieu qui disait qu'un face-à-face avec moi est absolument impossible. Et tout à coup, Moïse a vécu 40 jours de ce face-à-face avec lui. Ce temps d'intimité, ce temps où Dieu se laisse rencontrer, ou ce temps où Dieu donne une parole, ou se fait parole, enfin transmet une parole à son peuple. L'homme qui est uni à Dieu peut entrer dans cette intimité avec Dieu, peut partager les préoccupations mêmes de Dieu, entrer dans la proximité de Dieu afin de le connaître, non pas le connaître au travers d'un savoir, mais le connaître au travers d'une communion, d'une participation, diraient nos amis orthodoxes, qui est repris d'ailleurs par l'apôtre Pierre, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est l'apôtre Pierre qui évoque cette participation à la nature divine. Autre personnage qui a vécu cela, Élie. Il a bien mangé lorsqu'il était dans la région de Beersheba. Ensuite, l'ange lui a dit, « Bien maintenant, tu vas marcher pendant 40 jours et 40 nuits et tu vas rencontrer Dieu. » Et Élie a connu cette rencontre extraordinaire de Dieu. Paul aussi, mais je peux évoquer Jésus. Jésus, alors le jeûne de Jésus, 40 jours aussi. Et là, c'est frappant parce que dans le jeûne de Jésus, il n'est pas du tout parlé d'une rencontre avec Dieu, ce qui est bien normal. Jésus étant lui-même, par essence divine, il était constamment en communion avec son Père par le Saint-Esprit, l'ineffable harmonie de la Trinité divine. Donc, pour Jésus, à la différence de Moïse, il ne s'agissait pas d'une rencontre avec Dieu, mais curieusement, d'une rencontre avec le mal. Jésus a mis, le jeûne a mis Jésus face à face avec le mal absolu, face à face au diable, et précisément dans ses aspects les plus perfides, les plus trompeurs, les plus fascinants, et par là même les plus destructeurs. Et le jeûne de Jésus et sa communion intime au Père lui a permis de distinguer les pièges du diable et résister avec succès à ces pièges. Donc c'est la première dimension du jeûne, peut-être la plus profonde, un face-à-face avec Dieu. La deuxième dimension, c'est un rite de deuil. Et c'est d'ailleurs la deuxième évocation dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, bon, c'est une narration de conflits et de guerres souvent épouvantables. L'un des premiers conflits, c'est un conflit d'une guerre civile où les 11 tribus d'Israël sont venues lutter contre Benjamin, puis ils ont tué, dit le texte, entre 20 et 30 000 Benjamites. Ça a été tellement choquant pour eux qu'ils ont décidé de promulguer un jeûne. C'est dans le livre des Juges. Ensuite, dans le livre de Samuel, le peuple d'Israël a jeûné à la mort de Saül, de Jonathan, Saül et ses fils. Et alors, Israël a promulgué un jeûne. Donc, le jeûne est un temps qui marque le deuil, une communion dans le deuil, une présence, une compassion. Souffrir avec signifier réellement que je partage le deuil de ceux qui le vivent. Le jeûne est un rite de pénitence. Alors le rite de pénitence, on le trouve longuement dans l'Ancien Testament. Par exemple, Daniel, il n'avait rien à se reprocher quant à lui-même. Mais Daniel, qui se trouvait en captivité à cause du péché de son peuple, a eu ces phrases extraordinaires. La première année du roi Darius, je me tournais vers le Seigneur en quête de prières et de supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priais le Seigneur, moi et mon peuple, nous avons péché. Ensuite, Esdras qui apprend des nouvelles de, ou Néhémie plutôt, qui apprend des nouvelles de Jérusalem. Néhémie jeûne et prie devant Dieu. Esdras a proclamé un jeûne d'humiliation afin de demander à Dieu le secours pour le voyage de retour à Jérusalem. Un rite de pénitence, nous avons péché. Je vais traduire ce constat par un geste concret. Dans le jeûne, il y a aussi un jeûne dans le cadre de situations dramatiques. Les situations dramatiques, eh bien, elles sont nombreuses dans les Écritures, en particulier lorsque le fils que David a eu avec Bathsheba, la femme d'Uri, ce fils a été atteint dans sa santé, au point qu'on sentait que sa vie était mise en péril, eh bien, David s'est mis à jeûner profondément en faveur de ce fils. Et puis, ça c'est dans 2 Samuel 12. Et puis, dans le livre des Chroniques, eh bien, le roi Josaphat entend parler des Moabites qui viennent avec des velléités agressives contre son peuple. Ils sont déjà dans la montée de Jérusalem et Josaphat promulgue un jeûne parce que, voilà, on a peur. La peur au ventre, l'ennemi est là, aux portes. Il faut quelque part que Dieu fasse quelque chose. Ensuite, le jeûne est un chemin d'édification personnelle et communautaire. Et là, ça nous rejoint peut-être d'une manière plus proche, quoique tous les autres jeûnes nous concernent. Alors, un chemin d'édification personnelle et communautaire. Mais Jésus le dit. Jésus le dit parce qu'on reprochait à Jésus qu'il ne jeûnait pas. Puis Jésus dit, c'est bien, oui, maintenant mes disciples ne jeûnent pas, mais après ils vont jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera ôté, c'est l'image que Jésus donne en rapport avec le jeûne, enfin avec la communion avec l'époux, avec Jésus lui-même. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors à ce moment-là, les disciples jeûneront. Et nous sommes dans ces jours-là. Donc Jésus annonce que nous jeûnons, que le jeûne fait partie de notre spiritualité chrétienne. Et puis, il y a un texte assez célèbre, étonnant, où il est dit que les disciples n'ont pas pu guérir un jeune homme. Et alors, c'est dans Marc 9, et les disciples disent à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le guérir ?» Et Jésus leur répond, « Cette espèce de démon dont est habitée, la maladie profonde dont est habité ce jeune homme, eh bien, cette maladie ne peut sortir que par le jeûne et la prière. » Et puis, un troisième exemple, dans les Actes des Apôtres, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ils désignèrent alors des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces anciens et ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Acte 13, Acte 14, Marc 9. Donc voilà, les exemples sont nombreux qui nous montrent la place du jeûne dans la spiritualité chrétienne. Le jeûne désigne la dimension du temps que nous voulons consacrer au Seigneur, dans nos vies personnelles, dans notre gestion de l'Église. Le jeûne désigne l'engagement de notre personne tout entière, du temps que nous voulons consacrer pour le discernement, pour prendre de bonnes décisions. Le jeûne est une manière d'associer notre personne tout entière, pas simplement notre volonté ou nos bonnes intentions, mais on associe notre corps. On associe notre emploi du temps total, notre corps prie, notre corps dans l'expérience du jeûne, sans notre faiblesse et sans notre besoin d'une dépendance à l'égard de Dieu afin d'être plus proche que lui. Notre jeûne nous incorpore à la communion, à l'expérience du Christ. Notre jeûne nous fait avoir faim, mais comme c'est un jeûne au nom du Christ, au nom de Dieu, nous avons fin de Dieu. Et en pensant au combat dans lequel auquel Jésus évoquait, le jeûne désigne donc l'engagement de la personne tout entière dans le combat livré contre le mal. Et cela nous indique une chose qui m'est très importante dans les situations où nous sommes confrontés au mal, à la maladie ou autre, et que nous aimerions assainir au nom du Seigneur. Trop souvent, nous croyons qu'il suffit de prononcer quelques paroles et puis la situation est résolue. quand Jésus nous dit « cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière », Jésus nous dit que ce combat n'est pas remporté par de simples paroles prononcées en faveur d'autrui. Le combat requiert de la patience, il requiert de la présence. Jeûner, ça ne se fait pas en quelques heures ou quelques minutes. Donc le combat spirituel en faveur de quelqu'un ou contre le mal est un combat qui implique de la solidarité en faveur de ceux pour lesquels nous voulons nous engager. Voilà quelques phrases, deux commentaires de ces textes qui mériteraient beaucoup plus de temps. J'aimerais vous apporter une méditation sur les vertus du jeûne. Le jeûne réveille notre zèle. Le jeûne nous rassemble dans la maison paternelle. Alors, un certain nombre de ces textes me viennent de ma propre expérience et de ce que je porte dans mon cœur, mais ils me viennent aussi d'une méditation, d'une prédication de Saint Jean Chrysostome. Et c'est vrai que Chrysostome a un don tout à fait poétique de dire les choses et certaines phrases me sont inspirées par lui. Il nous rassemble dans la maison paternelle, j'ai trouvé très beau. Ensuite, le jeûne nous permet de... Ah oui, non, c'est dans l'idée, il dit, nous rassemble dans la maison paternelle. Chrysostome prêchait dans le cadre d'un jeûne collectif. Heureux peuple, heureux pays, heureuse ville. C'était à Antioche, une ville de 400-500 000 habitants. C'est quand même pas rien, je ne veux pas dire tous les habitants jeûnaient, mais n'empêche, on avait décrété un jeûne collectif dans cette ville. Et Chrysostome disait, c'est ainsi qu'on voit une cité bannir toute torpeur et déployer la plus grande activité pour recevoir son prince. La cité qui bannissait sa torpeur pour recevoir son prince, en l'occurrence Jésus-Christ. Il y a une tentative de réhabiliter le jeûne fédéral. Encore un ami me retéléphonait cette semaine, des groupes essayent de réhabiliter le sens du jeûne fédéral pour qu'il redevienne une consigne nationale de jeûne. Ça pourrait être une bonne chose, à mon avis, c'est une chose qui mérite d'être remise en valeur. Le jeûne réalise le commandement originel. Et là, il y a une notion tout à fait lumineuse. En fait, ce que Dieu a ordonné à Adam et Ève, c'est de jeûner. Quand Dieu dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, il leur a ordonné un jeûne. Eh oui, il leur a mis une limite en leur disant, ben, il y a quelque chose pour lequel tu jeûneras, tu ne consommeras pas. Je trouve ça tout à fait intéressant. Tu pourras consommer d'autres choses, mais il y a des limites dans ta vie. Et ces limites, elles sont structurantes, elles sont constructives, nécessaires à l'édification de ta personne. Donc le jeûne réalise le commandement originel. Le jeûne brise les fers de notre servitude. Il rompt les liens qui garrottent nos mains. Il affranchit de toute tyrannie et nous remet en possession de notre liberté. Intéressant, hein ? Nous avons tellement le sentiment inverse que vouloir faire tout ce qu'on a envie, c'est ça la liberté. Ben, c'est pas vrai. Quand nous faisons réellement tout ce que nous avons envie, nous sommes plutôt dans des dépendances, dans des addictions. Et le jeûne permet de casser nos dépendances et nos addictions. Il est un remède à nos blessures. Il nous offre une liberté intérieure. Le jeûne nous aide à aller dans la profondeur afin de mieux distinguer nos émotions, les attitudes négatives qui peuvent nous emprisonner, la peur, l'ambition, les ambitions mal placées et nos différentes addictions. Distinguer réellement dans ce qui se passe en nous. Pouvoir se dire, mais pourquoi est-ce que je vis un tel rythme de vie, un tel rythme de loisirs, un tel rythme de travail, un tel rythme de perfectionnisme ou d'oisiveté. Enfin, peu importe, j'entends, je ne veux pas cibler aucune de nos situations. Le jeûne permet d'aller vraiment dans la profondeur, ouvrir un espace de réflexion, un espace de méditation, de revenir sur nous-mêmes, un espace de recueillement. Pour vraiment valoriser et estimer qui nous sommes réellement. Et ça, c'est d'une richesse incommensurable. Et en cela, le jeûne est une source de force, ça veut dire de rafraîchissement, de redynamisation de notre existence, de clarté. Le jeûne unifie notre vie, il nous relie à notre cœur. le jeûne enracine vraiment notre vie en Dieu. Alors c'est vrai que Jésus apporte un éclairage quand même étonnant. Après tout ce que j'ai dit de bien du jeûne, Jésus nous dit, mais quand vous jeûnez, ne faites pas, etc. Donc, on a bien compris que Jésus ne conteste pas la vertu du jeûne. Jésus dit deux choses. Il le valorise, je vous ai dit pourquoi, j'ai cité les versets bibliques dans lesquels il le valorise. Mais là, Jésus place le jeûne dans sa juste perspective. Le jeûne ne doit pas être un rituel hypocrite. Parce qu'il arrive que, oui, qu'on a utilisé le jeûne comme un moyen de pression. Je soupçonne un peu David d'avoir été dans cette situation-là. Bien sûr, son fils allait mourir, mais il est des jeûnes qui sont des grèves de la faim, dit Jacques Poujol, avec beaucoup de perspicacité. Il est des jeûnes qui sont des grèves de la faim et des revendications contre Dieu. Et alors c'est ça, Jésus dénonce les jeunes revendications contre Dieu, des jeunes moyens de pression, des jeunes par lesquels on adresse à Dieu une injonction impérative, impérieuse, et on veut vraiment que Dieu passe par là où on veut qu'il passe. Des jeunes pour se concilier les bonnes grâces de la divinité. Ça c'est classique. Chez les autres. Voilà. C'est toujours ce qu'on dit des autres religions. Alors merci de vos sourires, ça me fait du bien. C'est classique dans la mentalité religieuse qu'on peut trouver aussi bien chez nous comme chez les autres. Cette espèce de se concilier les bonnes grâces de la divinité. Alors c'était l'attitude des pharisiens et Jésus dénonce cette attitude avec vigueur. D'ailleurs, je crois que le culte d'Éric Cazès portait aussi sur cette même dynamique, mais en rapport avec l'aumône. Donc, vous avez déjà entendu cet appel que Jésus nous adresse, mais purifiez vos cœurs, que tous vos faits et gestes soient en harmonie avec votre cœur et de l'authenticité avec votre vie. Alors, c'est quoi le jeûne selon le cœur de Dieu ? Sans mettre à l'écart des jeûnes physiques et concrets, mais le jeûne avait dans le cœur de Dieu. Et là, j'ai encore, en relisant ce texte hier soir et ce matin, je me rends compte qu'il faut le lire, et puis je ne vais pas le commenter parce que le texte, il est explicite pour lui-même. Ésaïe 58, verset 3. « Pourquoi jeûnons-nous ? Tu ne le vois pas ? Pourquoi nous privons-nous ? Tu ne le sais pas ? » Ça, c'est le peuple qui s'adresse à Dieu. Tu, c'est le tu du peuple qui s'adresse à Dieu. Mais à quoi ça sert de jeûner? Tu ne le vois pas. À quoi ça sert de priver? On a comme l'impression que tu ne te rends pas compte. Réponse de Dieu. Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. C'est très concret. Libère les esclaves que tu dois libérer tous les 7 ans, libère les terres que tu dois libérer tous les 49 ans. Ça, c'est la loi d'Israël. Libère ceux qui sont sous ton pouvoir. Ah oui, c'est vrai qu'on parle pas mal d'Israël ces temps. Pardonnez-moi, ça me tient très à cœur. Libère ceux qui sont dans ton pouvoir. Ça, c'est la loi d'Israël. Libère les terres que tu as confisquées. Je continue. Il s'agit de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri. Couvre celui que tu vois nu. Ne t'esquive pas devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et tu te rétabliras bien vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu appelleras au secours et il te dira « Je suis là ». Si tu éloignes de moi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants. C'est bouleversant, ce texte. Non, mais il est extraordinaire. Vous sentez la force, la puissance de ce texte et l'actualité de ce texte. Et un texte qui interpelle, puis en même temps qui est plein de promesses. Je viendrai, je te répondrai, je te visiterai, ta lumière se lèvera parmi les ténèbres et ton obscurité sera comme un plein midi. Mais je trouve ce texte absolument magnifique parce que, à la fois, il pointe le doigt sur nos dysfonctionnements, puis en même temps, il est plein d'une promesse de relèvement, de lumière et de renouvellement dans la présence de Dieu. Alors, en effet, le jeûne consiste à construire des solidarités et non pas à accomplir des rites aussi pieux soient-ils. Le jeûne consiste à construire des relations de justice et non pas accomplir des rites, aussi pieux soient-ils. On le trouve dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Il me faut aller de l'avant. Moi, je dirais que le jeûne est être tendu vers Dieu. Vraiment être tendu vers Dieu. Et qui dit tendu vers Dieu, dit tendu vers les autres, bien sûr. Le jeûne est un chemin qui nous met en route. Le jeûne est réellement une préparation pour rencontrer Dieu. Alors, tendu vers, un chemin, une préparation, c'est les trois mots-clés de l'Avent. Voilà, je suis pleinement dans le temps de l'Avent. Le jeûne, un jeûne selon le cœur de Dieu, c'est la phrase même de Marie. Et c'est celle que j'aimerais vous laisser à la fin de cette prédication. Cette phrase me bouleverse toujours. Cette phrase elle est d'un prodigieux extraordinaire. Et c'est vrai qu'à 3 semaines, nous avions le privilège d'être à Nazareth. Et dans la communauté du Chemin Neuf, vous savez, le Chemin Neuf, cette magnifique communauté œcuménique, parce que la communauté du Chemin Neuf de Nazareth, elle est à la fois catholique et protestante, puisqu'il y a une sœur protestante qui en fait partie. Cette communauté fait un très très beau travail à Nazareth, en particulier elle a mis en place un montage vidéo, tout public, les juifs, les musulmans, les chrétiens, de toute obédience ils viennent, un montage qui met en valeur le plan du salut, et qui met en valeur bien sûr la personne de Marie. Eh bien il y a cette phrase qui est au cœur de ce montage, le oui de Marie. Le oui de Marie est quelque chose d'extraordinaire, alors que ce oui venait complètement à l'encontre de tous ses projets de vie, venait à l'encontre de tout ce qu'elle était, jeune fille de 14-15 ans, de tout ce que sa famille avait fait d'elle et de tout ce qui était honorable pour sa vie. Et tout à coup, elle était mûre, elle était prête pour dire oui à Dieu. Alors que tout en elle devait lui faire résister à cette infamie que représentait d'être enceinte en dehors d'un mariage formel. Ce oui de Marie, eh bien, c'est ça le jeûne, le sens profond du jeûne. C'est ça le sens profond de l'Avent. Et mon souhait, c'est que tous nos jours soient des jours qui nous orientent vers Dieu, qui nous mettent en route vers lui et qui nous tendent vers la présence de Dieu. Le oui de Marie, qui est un consentement et non pas une résignation, bien sûr, mais le consentement, nous sommes toujours appelés à exprimer à Dieu des consentements. Qui que nous soyons, de notre plus jeune âge jusqu'à notre dernier souffle de vie, il y a constamment dans nos existences des deuils à vivre, des déceptions, des échecs, des contraintes, des choses qui nous déplaisent et dans lesquelles nous ne pouvons vivre en paix que si nous entrons dans le consentement. Et le jeûne biblique est d'abord être disponible à Dieu, disponible avec Dieu, disponible en Dieu. Et c'est là que le jeûne nous relie vraiment à l'Avent. Alors, quelques images. Je suis la servante du Seigneur. C'est dans la chapelle de la communauté du Chemin Neuf que j'ai trouvé cette icône. Cela, c'était au Liban l'année dernière. Une icône en arabe, comme quoi, pour vous rappeler qu'il y a 10 millions d'Arabes qui célèbrent le Christ, comme nous ce matin, mais en langue arabe. Donc, soyons en communion avec ces 10 millions d'Arabes qui célèbrent le Christ en langue arabe. Voilà, là nous sommes dans la maison du Chemin Neuf, dans la communauté du Chemin Neuf. Il y a une chapelle, et cette chapelle, voilà, ici, c'est la même chose. Voilà, ça c'est Lausanne, ça c'est Nazareth. Non mais avouez, c'est merveilleux comme les deux, hein. Lausanne a reproduit Nazareth, mais ça c'est... Alors quand vous êtes là en prière, c'est comme quand vous êtes là en prière, ben eux quand ils sont en prière à Nazareth, et voilà ce qu'ils voient. La basilique de l'Annonciation. L'ange qui vient. De nouveau une peinture que j'ai photographiée il y a 3 semaines, dans cette communauté du chemin neuf. L'ange qui vient. Marie qui accueille. Et Marie qui répond. Je suis la servante du Seigneur. Je vous invite vraiment à dire ces paroles dans toutes les situations de vie, heureuses ou malheureuses que vous traversez. Et ça, c'est une représentation plus moderne. Il s'agit d'Arcabas, ce peintre qui habite probablement toujours, enfin, que j'ai rencontré en Chartreuse, l'ange avec ses paroles, l'ange rougeoyant parce que c'est des paroles de feu qui viennent du trône de Dieu et qui s'adressent à Marie, et Marie complètement interloquée qui se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Marie avec ses grands yeux qui ne comprend pas et qui est totalement fascinée par ses paroles, et qui répond, elle aussi, avec ses joues, ses lèvres de feu, comme les lèvres de l'ange, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Seigneur, donne-nous, oui, d'être des jeûneurs, des hommes et des femmes qui jeûnent, peut-être retrouver la réalité concrète du jeûne physique, oui, mais surtout ce sens profond du jeûne qui est d'être constamment tendu vers toi, constamment assoiffé par une actualisation de Dieu dans mon quotidien, économique, commercial, relationnel, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à mes proches, à mes voisins, dans mon rapport à moi-même, aux autres. Seigneur, être tendu vers toi afin d'être réellement nourri de toi. Je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen.
Merci à Jean-Jacques. Je crois que après la richesse de toutes ces paroles, c'est bon de prendre un petit temps de réflexion. Peut-être que ce matin, nous avons besoin de nous repositionner face à cette faim de Dieu, face au jeûne. C'est pourquoi je vous invite à fermer les yeux, à vous laisser interpellés par ces paroles, et s'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer par la prière, qu'elles puissent le faire.